Bien, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 22, psaume 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple maîtrise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime.
Parfois, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a comme un mur infranchissable entre nous. Attention, mon Dieu, je ne dis pas que c'est ta faute. Tu aurais pu faire un effort, toi qui peux tout. Mettre une porte, une fenêtre, même un trou de souris. J'ai regardé partout, j'ai tout observé. Mais pas une seule ouverture. Alors qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je me suis débrouillée toute seule pour essayer de passer ce mur qui nous séparait. J'ai essayé de m'accrocher de toutes mes forces aux pierres de ce mur pour grimper. Mais le mur était tellement lisse. Je me suis juste écorchée les mains. Alors j'ai essayé de creuser pour passer sous ce mur et te retrouver, mon Dieu. Mais la terre était tellement dure que je me suis juste cassé les ongles. Alors, j'ai essayé de foncer de toutes mes forces sur ce mur pour le briser. J'ai essayé de foncer de toutes mes forces sur ce mur pour le briser. Mais il était tellement solide, je me suis juste fait mal à l'épaule. Tu vois, Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné tout ce que j'avais. Là maintenant, je me sens lessivée, vide. J'ai plus de force pour continuer à lutter. Et toi maintenant, toi qui es censé être tout-puissant, fais-moi un signe. Ne me laisse pas être tout-puissant. Fais-moi un signe. Ne me laisse pas là toute seule. Montre-moi que tu existes, que tu m'as pas laissé tomber. Si tu veux pas passer ce mur et venir jusqu'à moi, au moins tu es grand, lève la main, fais-moi un signe que je le vois par-dessus et que je sache que tu es là. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Tu n'as pas le temps? Tu es en vacances peut-être? Tu dors? Tu t'en fiches? Est-ce que toutes tes promesses c'était seulement du vent? Alors maintenant, moi je fais grève. Grève sur le tas. Je m'assois là, face à mon mur, et j'attends. J'attends un signe de toi, un miracle, un appel, n'importe quoi pour me redonner de l'espoir, juste de l'espoir. Je t'attends, toi, mon Dieu, mais s'il te plaît, dépêche-toi, ne me laisse pas. J'ai juste tellement, tellement, là maintenant, besoin de toi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme. D'un homme qui est descendu au plus bas de ce qu'un homme peut descendre. De ce qu'on peut connaître et imaginer. Plus bas que n'importe quel être humain sur cette terre. Et cet homme, alors qu'il était au plus profond du trou et de la détresse, il a ressenti la sensation la plus douloureuse qui puisse exister. Il a ressenti l'absence de Dieu. Alors, j'aurais pu vous parler de Job, parce que lui aussi, il a connu ce silence de Dieu. Mais c'est un autre que j'ai choisi d'évoquer avec vous ce matin. Et cet homme, c'est Jésus. Le Christ au moment où il est sur la croix. Je vous propose de prendre le texte de Marc 15. Je vais lire les versets 25 à 34. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Éloï, Éloï, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque je lis ce récit que Marc fait des derniers événements de la vie de Jésus, je me dis que ce n'est pas possible de se retrouver dans une situation plus triste, plus tragique. Ce Jésus, lui qui avait fait plus tragique, ce Jésus, lui qui avait fait tellement de bien autour de lui, soigné tellement de personnes, puis tous ces miracles extraordinaires, marcher sur l'eau, apaiser les tempêtes. Où est-ce qu'il en est maintenant ? Rejeté, abandonné par sa famille, ses amis, son propre peuple a comploté contre lui pour trouver de fausses accusations et le faire mettre sur une croix. On a trouvé des faux témoins contre lui. Même l'un de ses meilleurs amis, des 12 qui étaient tout le temps avec lui, l'a trahi pour quelques pièces d'argent. On l'a condamné à mort, brutalisé, cloué comme un bandit sur une croix, des inconnus, des passants, se moquent de lui et lui crachent dessus. Il le dénigre alors qu'il est en train de souffrir les douleurs de la mort. Le texte que je viens de lire, Marc 15 au verset 34, nous dit que dans ces derniers moments, Jésus se sent complètement abandonné par son Père, au point de crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous avoue, je me suis toujours demandé, mais quelle méchanceté il pouvait y avoir dans le cœur des passants pour qu'ils se moquent aussi cruellement de Jésus à ce moment-là. Vous voyez un homme dans la souffrance, dans les derniers moments de sa vie, et ils disent « Laissez, que nous voyons si Élie va le descendre. Et toi qui détruis le temple en trois jours et le rebâtis, descends de ta croix, sauve-toi maintenant. » C'était cruel, c'était injuste, c'était juste hors du bon sens. Est-ce qu'ils n'avaient pas aimé cet homme ? Est-ce qu'ils ne l'avaient pas suivi ? Est-ce qu'ils n'avaient pas écouté son enseignement ? Est-ce qu'il ne leur avait pas fait du bien ? Alors qu'est-ce qui peut les amener tout d'un coup à se retourner comme ça contre lui ? En réfléchissant, je crois que j'ai trouvé peut-être une réponse. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, il est passé une toute petite idée dans leur tête qui a commencé à s'implanter et à grandir. Si Jésus, il est là sur cette croix, condamné comme un brigand, et que Dieu n'intervient pas pour le sauver, c'est que quelque part, Il a bien dû le mériter. Il a bien dû faire quelque chose pour en arriver là. C'est sûr. Est-ce que c'est si difficile que ça, de se laisser à penser ce genre de choses? Je crois pas. La Bible, elle a plein d'exemples de cas où les hommes, ils se sont empressés de sauter aux conclusions pour dire « Ah, c'est sa faute ». Le plus facile, c'est peut-être les amis de Job. Job qui est malade dans la souffrance et ses braves amis qui sont là et qui lui apportent du réconfort. Non, non, non. Ils sont là pour lui dire « Tu dois être coupable devant Dieu. T'as fait quelque chose pour mériter ça. C'est ta faute si tu es dans la maladie. » Même les disciples de Jésus, hein, ils n'étaient pas mieux. Jean 9, 2 nous rappelle que les disciples ils cherchaient qui est responsable de ce qui arrive. L'aveugle là, il est malade à cause de son péché ou celui de ses parents? Et Jésus a dû leur expliquer qu'ils n'avaient rien compris, rien du tout. Mais vous savez ce qui est le plus triste? C'est que parfois, nous finissons par penser comme ça, mais à propos de nous-mêmes. Lorsque nous sommes en plein dans la souffrance, qu'elle soit physique ou morale, et que nous avons cette impression que Dieu, il ne nous répond pas. Il ne répond pas à nos prières. Nous finissons par nous dire, c'est sûrement ma faute. J'ai dû faire quelque chose de mal. J'ai probablement un gros péché là quelque part que je n'ai pas réglé et qui m'empêche d'être en contact avec mon Dieu, c'est sûr. Mais s'il y a une seule chose que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est celle-ci. Cette idée, elle n'est pas vraie. Parce que le Dieu que je découvre dans la Bible, le Dieu que cette Bible me présente, ce n'est pas un Dieu qui abandonne les hommes à leur sort quand ils sont dans le péché. Au contraire, moi le Dieu que j'ai rencontré dans cette Bible, il appelle les pécheurs. Il les supplie de revenir à lui. Lorsque l'humanité a sombré dans le péché, Dieu il ne s'est pas détourné d'elle en disant « Débrouille-toi maintenant, t'es loin, tu vois les conséquences. » Au contraire, il est venu au plus proche d'elle, en elle, en devenant homme par Jésus. Et Dieu, devenu homme sur terre, il ne s'est pas détourné des pécheurs, des petits, des malades. Il était avec eux, au milieu d'eux. Alors si quelqu'un vient vous dire « Dieu, il abandonne l'homme parce que cet homme, c'est un trop grand pécheur, il est indigne de lui. » J'ai envie de répondre « Et Jésus à la croix, qui a ressenti l'absence de Dieu, quel péché vous aviez à lui reprocher ?» Quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire que Dieu condamne, qu'il rejette. Ce n'est pas un Dieu fâché qui boude dans son coin ou qui veut punir l'homme, ou tout simplement qui s'en fiche. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu il s'est tu à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus se sent tout seul? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé Jésus souffrir les moqueries contre lui? Est-ce qu'il était vraiment absent, parti loin, abandonnant Christ à son triste sort? C'est vrai que pour la plupart des spectateurs, c'est comme ça qu'ils ont compris les choses. Si Dieu n'intervient pas, c'est une preuve, Jésus est coupable. Pourtant, il y a une personne pour qui ça s'est passé différemment. C'est Matthieu 15, 39 qui nous le dit. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là en face de lui dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Cette absence de Dieu, ce silence de Dieu, ça n'a pas empêché un homme, un païen, un centurion romain, de réaliser que la personne qui se tenait là, elle était spéciale. Elle était le Fils de Dieu et non pas quelqu'un rejeté par Dieu. À la croix, Dieu ne se manifeste pas. Mais ce silence de Dieu, en réalité, c'est le pardon. Pardon pour l'humanité, car comment est-ce que Dieu il pourrait se manifester à cet instant, à part en punissant ceux qui sont en train de mettre à mort Jésus? Dieu se tait, et en se taisant, il renonce à la colère, à la vengeance. Il se tait Parce qu'il pardonne. Il n'intervient pas et il respecte ainsi la prière de Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors sur la croix, Jésus, il est perdu dans sa souffrance. Elle est physique, elle est émotionnelle. Il est en train de subir toute la violence que l'humanité recèle en elle. Et il est tellement perdu qu'il n'arrive plus à ressentir la présence de son Père. Et souvent, nous nous focalisons là-dessus, sur la souffrance de Jésus. Elle était là, elle était réelle, elle était immense. Mais est-ce que nous avons déjà réfléchi à la souffrance de Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu a pu ressentir en voyant Jésus endurer la mort? Si Jésus, il a la souffrance de ce qui se vit, le Père, il endure la souffrance, la douleur infinie de voir le Christ souffrir, mourir. Moi, je crois profondément que devant la souffrance de Jésus, Dieu, il n'était pas au loin, regardant de haut ce qui se passe de Jésus. Dieu, il n'était pas au loin, regardant de haut ce qui se passe avec du recul. Qui peut dire le chagrin immense de Dieu et les larmes qui ont coulé en voyant les créatures qu'il a tellement aimées le rejeter encore une fois et le mettre à mort? Le sentiment d'incompréhension, d'abandon que l'homme ressent parfois lorsque il a l'impression que Dieu ne répond pas et qu'il est dans le chagrin, la souffrance, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la Bible. Jésus, il est loin d'être le seul à avoir crié à Dieu pour dire « je n'ai plus l'impression que tu es là ». Les psaumes sont un bon exemple, comme le psaume 22 qui a été lu tout à l'heure et que Jésus a repris sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, le jour j'appelle, tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Job, lui aussi, il n'a pas hésité à crier silence pour moi. Job, lui aussi, il n'a pas hésité à crier à Dieu pour lui exprimer qu'il ne comprenait pas. Lui aussi, il n'a pas hésité à crier à Dieu pour lui exprimer qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Job 30, 20 nous dit « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Je me présente sans que tu me remarques. Tu es devenu cruel à mon égard. Ta main vigoureuse sur moi s'acharne. Pourtant, n'ai-je pas tendu la main au pauvre quand dans sa détresse il réclamait justice? N'ai-je pas pleuré sur celui dont la vie est pénible, éprouvé de la pitié pour l'indigent? » Crier à Dieu. Crier quand on ne comprend plus, quand on n'accepte plus, ou quand on a l'impression qu'on ne supporte plus la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas un péché de s'exprimer à Dieu, même lorsqu'on est en colère, même lorsqu'on est à bout. Certains des psaumes, ils utilisent des expressions très fortes pour parler à Dieu. Par exemple, le psaume 44, verset 24 dit « Lève-toi pour parler à Dieu ». Par exemple, le psaume 44, verset 24 dit « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi !» Il faut quand même oser dire ça à Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'univers et nous lui devons le respect. Mais c'est aussi le Dieu qui nous a dit « Vous avez le droit de m'appeler Papa. » Il nous connaît mieux que quiconque. Il sait que parfois, nous les êtres humains, nous avons conque. Il sait que parfois, nous les êtres humains, nous avons besoin d'exprimer nos frustrations, nos doutes, nos incompréhensions. Nous avons le droit de nous exprimer avec Dieu, librement et dans la réalité de ce que nous ressentons, surtout si ce que nous ressentons est difficile à porter. Il y a quand même un aspect qui me touche particulièrement dans ce qui arrive à Jésus sur la croix. Lorsque Jésus crie à la croix, il se sent coupé de Dieu, il ne ressent plus de communion avec lui, et pourtant, il l'appelle tout de même « mon Dieu ». Jésus, il n'est pas en train de se poser des questions à lui-même. Pourquoi est-ce que je dois accepter ceci? Pourquoi est-ce que je dois subir tout ça? Même en le sentant loin de lui, Jésus s'adresse à son Dieu, son père, même s'il ne comprend plus, même si tout lui semble brouillé, bouché devant ses yeux. Au fond de lui, viscéralement, il sait que son salut est en Dieu seul. Et il a décidé que malgré tout ce qui arrivait, ça restait son Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas à certains moments de nos vies? Pourquoi est-ce qu'il se fait discret alors qu'on l'appelle si fort, qu'on passe des heures et des nuits en prière? J'ai pas une réponse à vous donner parce qu'elle ne serait pas juste. Dieu ne fait pas dans les généralités, chaque relation est différente. Alors il peut y avoir plusieurs raisons et je ne les connais pas toutes. J'ai des pistes de réponses par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je peux vous apporter un témoignage de ce que j'ai ressenti, mais c'est simplement mon expérience. Je sais que dans ma vie, parfois, si Dieu ne m'a pas répondu, c'est parce que je n'étais pas prête à ce moment-là à entendre ce qu'il avait à dire et qu'il a attendu que je sois en état d'entendre quelque chose que je n'avais peut-être pas envie. Et ça a été long d'attendre. D'autres fois, c'est moi qui avais tellement la tête dans mes problèmes que je crois que Dieu me parlait, mais que je ne l'entendais plus parce que j'étais face à mon mur et je ne me rendais pas compte qu'il était derrière moi à me dire « je suis là ». Mais tout ça, je m'en suis rendu compte après, une fois que c'était passé, en regardant derrière, en me disant « ah oui ». Je m'en suis rendu compte après, une fois que c'était passé, en regardant derrière, en me disant « ah oui, il était là ». Je ne sais pas pour quelle raison Dieu a pu un jour se taire dans vos vies, ou peut-être qu'il se tait ce matin. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu ne se manifeste pas pour toi ce matin, ou demain, ce n'est pas parce qu'il n'en a rien à faire de toi. Ce n'est pas parce qu'il te trouve indigne de sa présence. Ce n'est pas non plus parce qu'il se moque de ce qu'il peut t'arriver ou de ta souffrance. Ce n'est pas parce qu'il se fait discret que Dieu n'est pas là, près de toi, mêlant ses larmes aux tiennes. Parce que ta souffrance, elle lui est tellement insupportable qu'il a payé le plus grand prix possible pour t'en délivrer. Pour qu'un jour, toutes nos souffrances, qu'elles soient physiques, mentales, toutes ces souffrances puissent s'arrêter définitivement. Il est mort pour que nos souffrances, nos situations de vie qui nous font mal et nous emprisonnent, soient laissées derrière nous jusqu'au jour de son à partir du jour de son retour. Vivre le silence de Dieu, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait cacher parce qu'on a peur que les autres s'en rendent compte et qu'ils nous jugent en faisant comme si tout allait bien. Et je crois que nous devrions chacun d'entre nous demander à Dieu de faire de nous des frères, des sœurs qui compatissent à la souffrance des autres, que nous soyons capables de soutenir sans juger, sans culpabiliser, sans ajouter du poids à la peine qui est déjà là. Nous avons un Dieu qui écoute, qui ne dort pas. Il ne sommeille pas celui qui veille sur l'église de Damari, mais il veille aussi sur tous ceux qui veulent croire en lui. Même si parfois, nous avons du mal à le ressentir, il ne nous laisse pas. Et même lorsque nous ne le voyons plus, lorsque nous ne l'entendons plus, il y a quelque chose à laquelle nous pouvons nous raccrocher. Nous pouvons nous accrocher à cette promesse. Tu es mon Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je sais, je veux savoir que tu es mon Dieu.
Quand les coups de la vie sur moi seront tombés, quand je ne pourrai plus rien y voir, quand je serai trop attristé pour me lever, quand j'attendrai trop vite le soir, quand je vis le soir, quand j'aurai perdu mes derniers lambeaux de foi, quand le ciel sera trop silencieux, quand j'aurai trop essayé, trop porté, trop froid, quand je ne lèverai plus les yeux, je me souviendrai de toi, de ce temps où, comme un enfant, je venais vers toi. Je me souviendrai de toi. Souvenir de lumière et souvenir d'amour me porteront dans le noir jusqu'au lever du jour. Je me souviendrai de toi. Quand les religieux m'auront dégoûté de moi, quand j'aurai perdu mes idéaux, quand je cacherai mes détresses et mes défauts, quand j'aurai rechuté trop de fois, quand je saurai que je ne suis pas assez bon, quand le passé sera trop présent, quand mes prières auront alourdi le plafond, quand je ne croirai plus au pardon, je me souviendrai de toi, de ce temps où, comme un enfant, je venais vers toi. Je me souviens, comme un enfant, je